dans le Yom Kippour historique, dans le Yom Kippour du changement effectivement de notre identité, je voudrais ramener les choses à une notion, on va dire beaucoup plus classique, à savoir, on s'approche, j'allais dire dangereusement, pas dangereusement, on s'approche de Yom Kippourim. Et Yom HaKippourim, à l'inverse de Rosh Hashanah, ou alors qu'à Rosh Hashanah, on a l'habitude de le dire et de le répéter, ce n'est pas le moment où on fait Teshuvah à proprement parler. Yom HaKippourim, effectivement, on va faire Teshuvah. Mais, et c'est là le grand mais, je pense qu'il y a une erreur fondamentale à parler de Teshuvah à Yom Kippour. Pour moi, et on va essayer de le comprendre ensemble, il faut absolument parler de Teshuvot. Et non pas de teshuva. Vous savez, les Français, nous avons un grand problème lorsque nous avons pris la mauvaise habitude de traduire ou de franciser toutes les expressions possibles et imaginables. Lorsqu'on parle de français et de la fête qui arrive, eh bien, tout le monde, alors, à moins que tu sois vraiment, vraiment un français, 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 et que tu appelles ça le grand pardon, mais la majorité des gens appellent ça Yom Kippour, c'est Kippour. Aux États-Unis, on va dire Yom Kippur. Yom Kippour. Et c'est marqué comme ça dans tous les calendriers du consistoire, Yom Kippour. Et je pense qu'il y a une grande, grande, grande erreur à parler de Yom Kippour. Dans la Torah, on ne parle pas de Yom Kippour. Dans la Torah, on parle de Yom HaKippourim. Yom HaKippourim, au pluriel, parce qu'il y a autant de kaparot, de tshuvot, qu'il y a de membres du peuple juif, qu'il y a de créatures dans le monde. Il est évident qu'on ne peut pas parler de la même tshuva quand on parle de David Chawat et quand on parle du Rav Menachem Akerman. L'un porte la Tunisie dans son cœur et dans ses blagues, l'autre a un nom qui finit en man comme Superman, Batman et autres Spider-Man qui montre bien ses origines ashkénazes. Il est évident que les mondes intérieurs qui sont les leurs, qu'ils le veuillent ou pas, et ça ne change rien qu'ils aient étudié ou pas dans les mêmes yeshivot. Ce sont deux mondes intérieurs différents qui puisent des racines différentes. Et notre vie au quotidien est différente. Donc on ne peut pas clairement parler d'une seule teshuva. Ce que j'aimerais faire avec vous ce matin, eh bien, c'est de voir justement comment amener la personne qui est face à moi à faire teshuva. Comment m'amener moi à faire teshuva Beyom HaKippourim. Et on va se rendre compte qu'il y a des personnes bien différentes et donc des tshuvot bien différentes. Alors, vous allez me reprendre si vous n'êtes pas d'accord avec moi, mais j'ai l'impression qu'on peut subdiviser les membres du peuple juif en plusieurs catégories. Il y en a une que j'appellerais la catégorie qu'on attend de retrouver, donc on ne va pas s'éterniser dessus, c'est celle de Moshe. C'est celle du père de tous les prophètes, Hanavi. Comment le Navi il fait Teshuvah? Bon, alors aujourd'hui, on n'a pas beaucoup de gens entre nous qui sont Nevi'im, donc on va pas forcément parler que d'eux. Il y a une autre partie du peuple juif qu'on va appeler en hébreu les Dossim, ou alors en français les religes, les religieux. Ces gens qui se revendiquent comme étant pratiquants, pour eux, eh bien, ils sont déjà dans la Torah, ils font les mitzvot. Et la question se pose, est-ce que ces gens-là doivent faire teshuva? Sur quoi ils doivent faire teshuva? Et comment peuvent-ils faire teshuva? Les religieux. Et puis on a ceux qui, à mon avis, représentent le mainstream, pas du peuple juif, malheureusement, mais des juifs qu'on connaît. Je parle de ces gens qui, on pourrait dire en français traditionnaliste, des gens qui ont une émouna, qui vont faire certaines choses, mais d'autres ne le feront pas. C'est-à-dire qu'ils vont choisir un peu, ils vont aller faire pioche-pioche, et soyons très honnêtes, la majorité des juifs qu'on connaît, si ce n'est pas pour dire que nous on en fait partie, eh bien on est là-bas. C'est-à-dire des gens qui, ma'aminim ba'Hashem, il y a certaines mitzvot, ils les font, et c'est évident qu'ils les font, je ne sais pas, ça peut être Shabbat, la cacheroute, mais il y a d'autres points dans la Torah, c'est pas si grave que ça, et on s'autorise pas mal de choses. Ça peut être dans le monde de la tzéniout, ça peut être dans le monde de l'étude de la Torah, ça peut être dans le Lashon Hara, ça peut être dans plein de domaines où, eh ben, soyons très honnêtes, on n'est pas forcément irréprochable. Et donc, il y a toute une partie de juifs qui sont dans cette situation-là de se dire, bah, moi, la Torah, c'est important, mais comment ces gens-là doivent-ils faire teshuvah? Et il y a un troisième style de personnes, un quatrième style de personnes en fait, qui sont les gens qui, même ça, ils ne l'ont pas. C'est-à-dire, ils ne sont rattachés a priori à rien. Ils ne font plus rien, mais ils se rappellent encore que leurs grands-parents étaient religieux. J'ai une photo de mon grand-père, il était rabbin. Même si moi, aujourd'hui, je ne fais plus rien. Comment ces gens-là s'éveillent à la teshuvah? Et il y a la cinquième partie, des gens qui, même à ça, ne peuvent pas se rattacher. Est-ce qu'on peut, eh bien, les ramener à la teshuvah? Donc voilà, pour moi, il y a ces cinq dimensions-là, le prophète, le religieux, le traditionnaliste, celui qu'on va appeler... en hébreu, on dit un chiloni, mais c'est pas vraiment la traduction. Celui qui a tout lâché, mais qui a des vestiges d'une vie intérieure, et celui qui est complètement perdu. Vous comprenez qu'il est impensable que la tchouva soit la même chez l'un et chez l'autre. Comment fait-on tchouva? Eh bien, commençons par le plus simple. Le plus simple, c'est un avis. Un avis, le prophète. Comment fait-il teshuvah, Moshe? C'est pas shoot. Moshe, sa teshuvah, lui, c'est un mifgash im HaKadosh Baruch Hu. Sa teshuvah, lui, à Moshe, c'est la rencontre directe avec Ribono Shel Olam. C'est comme ça qu'il fait teshuvah. On parle pas, évidemment, d'une teshuvah vers les fautes que j'ai pu commettre, parce que le prophète ne faute pas. C'est un tzaddik. Mais son retour à Kadosh Baruch Hu, eh bien, s'effectue lorsque Dieu lui parle. À ce moment-là, eh bien, de lui-même, il revient. On a cet exemple très 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 probant. Alors, je pourrais vous citer énormément de versets pour Moshe Rabbeinu, ça c'est clair. Mais on a un exemple très probant qu'on va lire à Yom Kippour avec Yonah Hanavi. Yonah qui ne veut pas remplir la shlichut d'Akadosh Baruch Hu. Et qui va faire tchouva lorsque Dieu lui parle et lui explique de quoi il s'agit. C'est-à-dire qu'on a ici une tchouva qui vient grâce à la bgisha, à la rencontre panim el panim entre la créature et le créateur. Ça, c'est pour les Nevi'im. Mais comme on l'a dit tout à l'heure, on est loin d'être tous des prophètes. Et donc, allons dans la deuxième catégorie, celle du religieux. Et le religieux, il a un problème. Parce qu'il se dit, je suis déjà Beseder Gamour. Je fais la Torah, je fais les mitzvot. Ma, en quoi dois-je faire teshuvah? Je suis déjà au top. Eh bien, un homme qui se revendique comme tel, si tu veux avoir une chance de lui faire faire teshuvah, il faut que tu lui parles un langage qu'il comprend. À Rosh Hashanah, cette année, est venu prier dans ma synagogue un jeune garçon, doit avoir 16 ans. Je ne l'ai jamais vu. Il habite manifestement dans le quartier, ou alors il était invité dans le quartier, je ne sais pas. D'après son accoutrement, il est charedi. Il est habillé en pantalon noir, chemise blanche, kippa noire, petite péote. Haredi. Il est venu avec nous, donc il a prié chez nous toute la tfila, il a écouté les différentes drachot que j'ai faites, et il est même resté au shiurim que j'ai donné les deux jours entre Mincha et Arvit. Et dans le deuxième shiur, on avait étudié un texte du Rav Kook qui explique la différence entre la trompette et le shofar, qu'à l'époque du Beit HaMikdash, on sonnait les deux à Rosh Hashanah. Et à la fin, donc de la tfila, on a fini Arvit le deuxième jour, je suis en train de fermer les lumières de la synagogue, d'éteindre les lumières, et il est resté, et il me dit, tu sais, moi j'aime beaucoup la pensée du Rav Kook, mais j'ai un grand problème avec pas mal de choses dans le monde sioniste religieux. Alors je lui ai dit, bonjour, qui es-tu, d'où viens-tu, et bon, on discute un petit peu, et je lui ai dit, mais c'est quoi qui te dérange? Et j'ai le droit à toute la panoplie classique, à savoir, mais les sionistes religieux, vous dites que l'État d'Israël, c'est fantastique, mais voilà, j'ai entendu David qui disait tout à l'heure la casquette qui manque. Il dit, ah, il n'y a pas ça, il n'y a pas ci, c'est, regarde, c'est ça, c'est un État juif. Je lui ai dit, regarde, je pourrais maintenant essayer de t'expliquer et de répondre à chacun de tes arguments par un contre-argument. Tu me dis, mais c'est un État qui respecte pas le Shabbat. Je pourrais t'expliquer que la décision de Ben Gurion de faire en sorte que le jour chômé, ce soit le Shabbat, et pas le dimanche, comme ça aurait été beaucoup plus logique de le faire pour s'accorder sur les marchés financiers du reste du monde, c'était une décision incroyable. Même si Ben Gurion lui-même ne fait pas Shabbat. Mais je dis, mais je vais pas parler, et je vais pas t'expliquer tous les contre-arguments à tes arguments. Parce que ça ne parlera pas à ton identité profonde. Tu m'as l'air de venir au nom de la Torah. Alors viens, parlons Torah. Ashela Yechida, la seule question que tu dois te poser, créer un État juif après 2000 ans d'exil, c'est une mitzvah ou c'est pas une mitzvah? Zé Maase Tov parce que c'est la halakha ou c'est pas Maase Tov parce que c'est pas la halakha? La question, elle n'est que Torah pour toi. Tu parles un langage de Torah. Et quand on est passé ensemble sur la sugya ilchatit, à la fin, il m'a dit, ah bah alors finalement, c'est bien ce qu'ils ont fait. Parce que j'ai parlé un langage qui était le sien. Le religieux, il parle le langage de la Torah. Et donc, sa teshuvah, elle doit venir du langage de la Torah. C'est ce qu'on va retrouver dans le Talmud. Dans le Talmud, dans le traité de Sanhedrin, à la page 102, eh bien, on nous raconte une histoire bien connue, l'histoire de Rabbi Abbaou. Et Rabbi Abbaou, il n'y a pas à dire, c'est un religieux. Rabbi Abbaou, c'est le Rosh Yeshiva, Rosh Yeshivot Bavel, c'est un tzaddik, c'est tout ce que tu veux. Et on nous raconte que Rabbi Abbaou était en train de faire le teaser, la bande-annonce du cours qu'il allait faire le lendemain. Et il dit, ouais, demain, on va parler des trois, tu sais, les Mélachim, là, les rois pourris. Ménaché, Achav et Omri. Dans la nuit, nous raconte le Talmud que le roi Ménaché se révèle à lui en rêve. Et il lui dit, mais pour qui tu te prends? Comment tu peux oser parler de nous comme ça? Non, mais ça va pas à la tête! On est les rois d'Israël et de Yehuda et tu parles comme ça de nous? Il dit, bah, Rabbi Abbaou répond, mais enfin, vous êtes des réchaïm, vous avez fait fauter le peuple juif. Répond à cela Rabbi Abbaou. Et lui dit, mais enfin, si vous étiez répond à cela Ménaché. Ménaché dit à Rabbi Abbaou. Il dit, ah, tu es toi le tzaddik de la génération, hein. Tu es le grand Talmid Chacham. Tu es dans la Torah. Alors voyons voir si tu es aussi fort que tu le dis. Et il lui pose une question de halakha. Il lui dit, dis-moi, quand on fait le motzi, par quel endroit il faut commencer à couper la challah? Rabbi Abbaou répond, je sais pas. Et vient lui expliquer Menachem, Melech Yehuda, mais enfin tu connais rien. Il faut commencer par l'endroit le plus cuit pour révéler l'essence de la dimension de Réchit. La Chala en elle-même, c'est déjà le Réchit. Mais l'endroit le plus cuit dans la Chala, c'est-à-dire c'est l'endroit qui a cuit en premier. En général, c'est le bout. Et là, Rabbi Abaou ne comprend pas. Et il dit à Ménaché, mais enfin, si tu étais si grand que ça en Halakha, en Torah, comment se fait-il que tu as fait la Avodah Zara? Et Ménaché lui répond, mais enfin, tu ne comprends pas quelle était la force du penchant, du Yetzer de Avodah Zara à mon époque. Et au vu de tes connaissances moyennes, lui dit-il, si toi tu avais vécu à mon époque, tu aurais soulevé ta jupe pour courir plus vite que moi à faire l'idolâtrie. Bon, de cette histoire, moi j'apprends quelque chose de fondamental, c'est que les rabbins avaient des jupes. Je pense que c'est la chose la plus importante à retenir de cette histoire. Et certains me diront, mais non, c'était une tunique. Chez est tunique. J'aimerais bien voir les rabbins aujourd'hui arriver à Yom Kippour dans leur synagogue avec des tuniques. Ça peut faire son effet. Quoi qu'il en soit...
Il y en a qui mettent la djellaba ou le kittel aussi, hein, à Kippour.
Il y en a qui mettent la djellaba ou le kittel à Kippour. Eh bien, c'est certainement pour se rattacher à cette histoire. Je ne vois pas d'autre explication. Quoi qu'il en soit, Rabbi Abaou, on lui a parlé un langage qu'il comprend, à savoir un langage de Torah. Un langage de Torah, on lui a posé une kouchia ilchatit. Et c'est ça qui est important. Et ça, ça lui fait plaisir. Et ça, ça lui parle. Et ça, ça lui fait revenir. Il va certainement réétudier tout le sujet. Il va certainement passer des jours et des jours, Rabbi Abaou, à réétudier toute la dimension du sujet. Et ça va lui permettre de revenir encore plus vers Dieu et être encore mieux. Mais soyons très honnêtes. Est-ce que cette... parole, la chala, machin, si on avait dit ça à quelqu'un d'autre qui n'est pas Rabbi Abaou, est-ce que ça aurait eu l'effet escompté? Est-ce que ça aurait eu un impact sur quelqu'un qui est traditionnaliste et on lui dit, tu sais, le plus important, si tu ne manges pas la chala par l'endroit le plus cuit? Je suis pas certain que ça aurait marché. Rabbi Abaou me fait penser au chacham de la Haggadah qui pose des questions de religieux. Alors on lui donne un onos religieux. En maftirim achar pesach afikoman. On lui donne une halakha. Et après on l'entend plus le chacham pendant toute la soirée parce qu'il est en train d'étudier les sfarim. Le problème du religieux, c'est que d'un côté, c'est sa force, il parle un langage de Torah. Mais le problème, c'est que des fois, ce langage de Torah le déconnecte complètement du reste du peuple juif. Je me souviens, et je l'ai déjà raconté, c'est une histoire, une anecdote sympathique, qu'il y a quelques années, j'étais chez mes parents, en Gaule, pour Soukhot, et on avait été, le premier soir, on était invité chez mon oncle, le grand rabbin Bruno Fison, dans sa soukha, et il y avait donc toute la famille, ma grand-mère, machin, et puis il y avait aussi le fils de mon oncle, mon cousin, qui à cette époque-là étudiait dans une très très bonne yeshiva charédite qui s'appelle Yeshiva Trevron. Ah, c'est une très bonne yeshiva. Et je me souviens que mon oncle avait demandé à son fils, au milieu du repas, bah, fais-nous un petit Dvar Torah. Ah, bah, attends, tu m'étonnes. Il a la yeshiva, c'est tout le kavod de son papa que son fils maintenant puisse faire un Dvar Torah. Eh bah, ben, il ne s'est pas démonté, mon cousin, pas de problème. Il étudie toute la journée. Donc il nous a transmis une kushia, un problème qu'il avait dans son étude. Et oh, c'était une question d'une marloquette à propos d'un cholé. Est-ce qu'il est chayav besouka ou le chayav besouka par rapport au premier soir ou au deuxième soir? Tout un débat halakhique sur une question technique de cholé besoukot. Et il a mis 10 minutes à poser la question, en faisant tous les pilpoulim possibles et imaginables dans la question, et en citant des noms de chachamim, des rishonim et des acharonim que personne ne connaît dans la question. Et au bout de 10 minutes, alors qu'il avait perdu tous les convives, ma grand-mère, sa grand-mère, lui dit, bon, d'accord, on n'a pas très bien compris la question, mais c'est quoi la réponse? Et mon cousin de répondre, mais je sais pas. Je sais pas, j'ai pas la réponse. C'est pas important la réponse, ce qui est important c'est la kushia, c'est le limoud. Et ça c'est l'ambiance de la yeshiva, c'est l'ambiance du relige. Mais si lui, ça lui fait kiffer et c'est fantastique, vous comprenez bien que ça fera pas kiffer d'autres personnes. C'est une teshuva qui est propre à lui. Il y a une phrase terrible dans le Maharal de Prague, dans la Hagdama de Tiferet Israël. Le Maharal pose la question, une question terrible. Il dit, comment ça se fait que les Talmidei Chachamim n'aiment pas Dieu? Comment ça, ils n'aiment pas Dieu? Le Maharal répond, il dit, bah oui, ils n'ont pas le temps d'aimer Dieu, puisqu'ils aiment la Torah. Mais enfin, Nachon, mais des fois, hein, à force d'être collé, et tant mort, c'est bien la Torah. La Torah, c'est génial, et il faut étudier la Torah tous les jours, et il faut faire la Torah et faire les mitzvot. Mais ce que je dis, c'est que des fois, t'es tellement Torah que t'as oublié à qui elle a été donnée, cette Torah. Je me rappelle une fois, j'avais fait Simchat Torah dans une yeshiva à tendance, on va dire, orthodoxe. Et je me souviens, c'était une image qui a été greffée, alors celui qui n'est pas dans le monde des yeshivot, il comprendra pas. Mais il y avait plein de gens qui portaient des sifrei Torah et ça dansait, et j'ai vu un mec, alors peut-être qu'il n'y avait plus de sefer Torah, j'en sais rien. Mais il a pris dans ses bras le tour, le livre du tour de Baal HaTourim, un commentaire de la halakha, et il dansait avec ça. Pour lui, c'était ça le plus important, la halakha. Alors c'est très important, la halakha. Mais vous comprenez que ça, c'est un langage qui parle au religieux, qui ne parlera pas à celui qui n'est pas à la yeshiva. En d'autres termes, eh bien, c'est une tshuva de la Torah qui est pour une partie particulière du peuple juif. Tout le monde n'est pas religieux, ou du moins pas autant. Et donc, nous arrivons à ce qui est pour moi le mainstream des juifs qu'on connaît, qui vont écouter peut-être ce cours. Qui sont des juifs qui ont une émouna, vadaï. Mais comment vous dire, bien qu'ils aient cette émouna, une petite seconde, voilà. Je prends mon texte. Bien qu'ils aient cette émouna extraordinaire, et c'est évident, ils l'ont, il n'y a pas de problème. Ils font plein de choses. Chez là, il y a des choses qui se permettent de ne pas faire. Et je ne vais pas redonner les exemples. On a dit déjà tout à l'heure. Ces gens-là qui donc sont moite-moite, comme on dit, eh bien, comment est-ce que tu vas leur parler? Comment est-ce que tu peux avoir une chance de l'ardor, de pénétrer au plus profond de leur âme pour les aider à s'éveiller à la teshuva? Si tu commences à leur faire un pile-poul, si tu commences à leur faire une grande explication halakhique, tu les perdras. C'est évident. Alors comment faire? Chacun d'entre nous, nous avons un chout. Nous avons un truc qui nous rattache à la teshuva. Qui nous rattache à Akadosh Baruch Hu. Et ce truc-là, eh bien, c'est peut-être ce qui me rattache, mais pas forcément ce qui te rattache toi. Chacun est différent. Prenons un exemple. Je connais certaines personnes, on va pas donner de nom, c'est pas important, mais je connais quelqu'un qui, Shabbat, c'est même pas un débat, la kashroute, c'est très important pour elle, mais elle est en pantalon et elle ne se couvre pas la tête. Mais quand je te dis qu'elle fait Shabbat et qu'elle mange kasher, et que c'est vraiment important, c'est au point de poser des questions, une fois tous les deux jours, au niveau de la halakha, de comment il faut bien faire ça, et tout. Ma mâche! Donc c'est quelqu'un qui a une profonde Yirat Shamayim sur certains sujets. Mais sur d'autres, elle se permet. Oh les amis, venez, on ne se voile pas la face. Combien connaissons-nous de personnes qui, arrivées le solstice d'hiver, font pas mal de compromis avec la tzniout? Que lorsqu'il s'agit de partir en vacances, eh ben on va pas forcément regarder si la piscine elle est séparée ou pas séparée. On connaît ça. Que quand on va regarder un film, s'il y a des scènes qui sont un petit peu olé olé, eh bien on va pas forcément faire avance rapide. Et bien là, on va pas vraiment se poser la question avant de regarder le film. Les amis, comment on fait tchouva à ce moment-là? Si on commence à faire une liste de toutes les choses mauvaises que j'ai fait cette année, nous avons, je vous le dis, aucune chance d'y arriver. Parce que passé la Avera 37, je serais déjà tombé en déprime totale. Et je me considérerais comme un pourri. Et je n'ai aucune chance. Et autant que Dieu en finisse avec moi tout de suite. Me dit Rabbi Nachman de Breslav dans l'Écoutez-moi, Aran, qu'il est évident qu'on ne peut pas faire teshuva en se focalisant sur les points négatifs. Mais bien au contraire, il faudra se focaliser sur justement les points positifs que je fais bien et les agrandir, les ajouter, les continuer, les faire devenir encore plus positifs. Eh bien, tout simplement pour que, au final, je n'ai un plus le temps de faire des choses négatives. Et deuxièmement, eh bien, ça soit tellement important pour moi que ça va également agrandir sur d'autres dimensions. Je vais vous demander 10 secondes. Je vais changer d'endroit parce que je vois que certaines personnes ont investi ma maison. Et donc, le salon sera un endroit de discussion d'ici très peu. Alors, je change de chambre.
Bon, on va pouvoir, ceux qui veulent, poser des questions en attendant que tu fais ce passage. J'ai compris un petit peu le début, quoi. Tu dis qu'il y a plusieurs tchouva, tchouvot, yom akipouri, pas yom kippour. Donc, il y a plusieurs types de tchouva et chacun se rattache comme il peut, quoi. Avec son fil à lui. Où tu veux en arriver, quoi? Qu'est-ce que tu veux nous dire? Comment nous, on va se rattacher, finalement?
Exactement. Le but, c'est de trouver son route à soi. La Gemara, justement, la Gemara nous raconte l'histoire d'un homme. Nous raconte l'histoire d'un homme, comment te dire? La Gemara, dans le traité de Menachot, à la page 44, on nous parle d'un homme, on ne connaît pas son nom. On ne dit pas son nom. La seule chose qu'on nous dit de lui, c'est qu'il était Zahir b'mitzvah tzitzit. Zahir meod. C'est-à-dire que pour lui, la mitzvah des tzitzit, c'était son truc. C'était son truc, mamash. Mais bon, la Gemara nous raconte qu'il a aussi d'autres problèmes, ce personnage. Il a, comment dire, une petite khulisha. Il a une faiblesse. Il aime les jolies femmes. Et il aime passer du temps avec des jolies femmes, surtout quand ce sont des professionnels, si tu vois ce que je veux dire. La Gemara nous raconte qu'il a entendu parler d'une nouvelle professionnelle sur le marché qui habite loin, elle est Bechoul, elle est Bekrachéayam. Et elle n'est pas donnée. Elle prend 400 pièces d'or pour faire sa besogne. Bon, mais lui, c'est son Yetzer et il y va. Mais attention, c'est high society. Donc il y va, mais il faut d'abord prendre rendez-vous. Et une fois qu'il a pris rendez-vous, finalement il arrive et il y a une salle d'attente et il y a la secrétaire qui va lui dire « Attendez, il faut que je prévienne madame. » Et finalement il rentre dans la pièce. Et la Gemara nous raconte qu'il y a là-bas 6 lits d'argent et un lit d'or et il faut grimper de lit en lit. Et la madame l'attend sur le dernier lit alors qu'elle est dans son plus simple appareil. Et à ce moment-là, nous raconte le Talmud qu'il est en train de se dévêtir, il est en train de se déshabiller, et à ce moment-là, eh bien, il enlève sa tunique, sa djellaba, son kittel, je ne sais pas. Et ses tzitzit viennent lui fouetter le visage. Et à ce moment-là, nous raconte le Talmud, qu'il a son électrochoc. Et qu'il descend s'asseoir sur le sol, il est nu, et il se met à pleurer. La dame, qui n'a jamais eu un tel retournement de situation, une faute professionnelle terrible pour elle, eh bien, elle s'assoit à côté de lui, elle aussi est nue, et elle lui dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Qu'ai-je fait de mal? Et le garçon lui dit, mais je te jure, je n'ai jamais vu de femme plus belle que toi. Ce n'est pas toi, c'est moi. Et à ce moment-là, elle ne comprend pas, elle dit, mais explique-toi. Et le garçon lui dit, écoute, Dieu nous a donné une mitzvah. Comment ça, une mitzvah? Il nous a donné 613. Nachon, mais pour lui, c'est ça la mitzvah qui le rattache à Dieu. Il nous a donné une mitzvah avec ce qui s'appelle tzitzit. Et au moment où j'ai enlevé ma tunique, eh bien, ces tzitzit sont devenus des témoins sur ce que j'étais en train de faire. Et je peux pas. Et là, la dame lui dit, écoute, je ne te laisserai pas partir tant que tu me dis pas comment tu t'appelles, d'où tu viens, quel est le nom de ton rave, et dans quel Beth Midrash tu étudies la Torah. Et finalement, eh bien, il lui donne les informations, il s'en va. Et quelques temps plus tard, on retrouve cette dame, après qu'elle ait vendu ses biens, elle part en Eretz Israël au Beth Midrash de Rabbi Chia. Et elle va voir Rabbi Chia et lui dit, Rabbeinu, dis-moi ce qu'il faut faire pour me convertir. Bon, Rabbi Chia, qui n'était certainement pas le plus bête des hommes, qui a vu son élève rentrer quelques temps plus tard d'un voyage initiatique, il dit à la dame, mais dis-moi, tu n'aurais pas des vues sur un de mes élèves? Et bon, raconte l'histoire, machin, et finalement, eh bien, Rabbi Chia va la convertir et il va les marier tous les deux. Et ce qu'il voulait faire à la base, Beissour, finalement, il va le faire Bemitzvah. Cette histoire nous raconte que voilà, chez lui, son chout à lui, c'était mitzvah tzitzit. Chez toi, ça peut être autre chose. Et Rabbi Nachman de Breslav nous explique, et ça c'est la majorité d'entre nous. Tu veux faire tchouva? Accroche-toi. Accroche-toi à ce truc que tu fais bien. Et fais-le encore mieux. Et tu verras que c'est ça qui va t'amener à faire d'autres choses aussi. Et peut-être même de corriger des choses que tu n'avais pas l'habitude de corriger. Quand j'étais en Shiur Aleph, à la Yeshiva, eh bien, un jour, il y avait un Shabbat Rofshi. Shabbat Rofshi, ça veut dire qu'on n'est pas obligé de rester à la Yeshiva. Mais, on avait décidé avec ma Chavruta de rester. Et le jeudi après-midi, un des Israéliens nous voit dans les couloirs et il nous dit, vous restez là Shabbat? On dit oui. Et il nous dit, eh bien alors, il faut absolument que vous alliez chez le Rav Mahles. C'est qui le Rav Mahles? Eh bien, tu verras, Rav Mahles. Je dis, ok, pourquoi pas, mais c'est où? Il faut s'inscrire, il faut appeler qui? Il m'a dit, non, laisse tomber, tu vas prier au Kotel Shabbat et t'attends. Ok. Alors, on avait 18 ans, on était jeunes, on aimait l'aventure. Et donc, on s'est dit, allez, on y va. Bon, je te rassure, on a acheté quand même quelques petits trucs à la Macolette au cas où ça tombe à l'eau. Et on est parti prier au Kotel. On arrive à la fin de la tefila, les minyanim se terminent et on attend au Kotel. On a attendu quoi, 10 minutes? Et il y a un jeune de 15 ans qui vient nous voir et qui nous dit, le Rav Mahles? Alors je dis, ouais. Et il dit, bah venez avec moi. Et on commence à marcher. Et il rassemble de plus en plus de personnes. Et on est une quarantaine à marcher du Kotel vers chez lui. Le Rav Mahles étant son père. Et en fait, quand on arrive, on se rend compte qu'il y a déjà 100 personnes qui sont assis là-bas. Et on comprend pas ce qui se passe. Il y a 140, 150 personnes qui sont assis. Et le Rav va faire le kiddush et il dit, voilà les amis, maintenant, bienvenue à tous, il y a deux règles pour rester chez moi. La première, c'est qu'à chaque table, il y a quelqu'un qui doit dire quelque chose. Et la deuxième, c'est que tout le monde doit chanter. Et si vous ne connaissez pas les paroles, faites la la la, et même si vous chantez faux, c'est pas grave. Et le repas se passe, c'est une ambiance extraordinaire. Et à un moment donné, je me rappelle, il y a dans une des tables, il y a un Australien qui a pris la parole. En anglais, il a dit, je suis pas juif. Je suis un globe-trotteur. Je me balade dans le monde entier. Ça fait 3 mois que je me balade. Je suis arrivé en Israël il y a 3 jours. Je suis arrivé à Jérusalem aujourd'hui. On m'a dit, on m'a aiguillé vers le Rav Mahles. Les amis, je vous le dis, ça n'existe pas ailleurs dans le monde ce qui est en train de se passer. C'est fantastique. Mais qu'est-ce qui se passe? Les gens ne se connaissent pas, mais... Alors, j'ai parlé un petit peu avec le rave. Je lui ai dit, mais comment c'est possible? Qu'est-ce que vous faites? Alors, Minastam, il devait avoir une situation financière qui le permet, mais je lui ai dit, mais vous faites jamais des repas entre vous, en famille? Et il me dit, mais si, comme ce soir, le peuple juif, c'est ma famille. Je lui ai dit, mais alors, vous faites quoi toute la journée? Il dit, bah, toute la journée, je pense à comment je vais pouvoir faire mieux mon repas de Shabbat. C'est-à-dire, tous les jours de la semaine, là, en ce moment, il me dit, je suis en train d'étudier en profondeur Tikkun Amidot. Tikkun Amidot? Mais quel rapport, Tikkun Amidot? Il dit, bah oui, je me dis que s'il y a eu que 140 personnes ce soir, et pas 150, 160, c'est que certainement, il y a des gens qui n'ont pas voulu venir chez moi parce que je suis peut-être pas assez sympa avec les autres. Donc maintenant, moi, j'étudie les halakhot de Tikkun Amidot pour être un mec encore plus sympa, pour que les gens, ils aient envie de venir chez moi. Et puis, j'étudie aussi en profondeur les lois de Kashrout. Parce que, eh ben, je veux pouvoir donner à manger à plein plein de gens, mais pour ça, il faut que j'utilise enfin, je peux pas être mahmir sur ma nourriture. Je veux rattacher un maximum de personnes, donc je dois être makel, mais pour ça, je dois savoir qu'est-ce qui est permis au niveau de la halakha. Et donc, j'étudie le chod Kashrout. Pourquoi? Pour mon repas du Shabbat. Entre parenthèses, c'est ce que je suis en train de vous dire. Son truc à lui, c'est Achnasat Orchim. C'est le fait d'accueillir des gens chez lui. C'est son truc dans la vie. C'est sa mitzvah. Et en appuyant sur cette mitzvah, en allant approfondir cette mitzvah-là, son chout à lui, eh bien, il s'en trouve en train de faire plein d'autres choses également. Et il corrige plein de choses qu'il faisait peut-être pas avant grâce à ce chout-là. Grâce à ce truc qui est son truc. Et chacun d'entre nous, on a un truc. En se rattachant à ça, eh bien, on peut s'éveiller à la teshuvah. Et on a dit, les amis, il n'y a pas que des prophètes, pas que des religes, et pas que des gens qui ont leur mitzvah à eux. Il y a des gens qui ont tout lâché. Ah, ils se rappellent que dans la famille, il y a eu des rabbins. Mais ils ont tout lâché. Notre génération, on en connaît beaucoup. La génération de l'après-Shoah a produit plein de gens qui ont lâché la Torah. On ne peut pas leur en vouloir, évidemment. Comment rattacher? Eh bien, c'est là que nous arrivons à notre personnage. On a commencé avec Moshe et nous arrivons à Ménaché. Alors, j'ai parlé de Ménaché Melech Yehuda tout à l'heure dans l'histoire de Rabbi Abbaou. Mais Ménaché Melech Yehuda, soyons très honnêtes, si je dois choisir un adjectif que je mettrais à côté du roi Ménaché, eh bien l'adjectif, ça serait pas tzaddik. Que les choses soient claires, quand on parle de Ménaché et quand on a lu le livre de Melachim des rois, Ménaché, aïe aïe aïe, Racha Merusha, il a fait fauter le peuple juif, il a fauté, il a mis de la Avodazara, c'est terrible! Ménaché, terrible! Comment est-ce qu'on peut parler de Ménaché collé au mot tchouva? Il y a une tfila que très 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 peu de gens disent. Elle est marquée dans le Marzor, du moins dans mon Marzor, elle est marquée. Mais moi-même, je ne le dis pas. C'est une tfila que doit dire le Chazan avant de faire Moussaf. Alors, le Chazan, chez nous aussi, va dire une tfila, mais ce n'est pas celle-là, c'est une autre. Elle est marquée en petit dans le Marzor. Je vais vous la lire 2 secondes. El Melech Ne'eman, Shaddai, Melech Elion, Kabel Shavati Beratzon, Amotz Levavi El Chai, Dayan Emet, Rachum Vechanun, Rachem Alai, Ushema Yom Asher Aatir, Be'adi Ube'ad Adati, Amaskimim Imi Betfilati. Je parle à Dieu, je lui dis, voilà, accepte que je me tienne devant toi. ותכלול תפילותינו עם כל תפילות הישרות והנקיות שיעשו עם היום עמך בעמך ישראל. אקספט מהתפילה ותות לתפילות כמו את חרדית ושורדוי דנטון פפל. ותחתור כי תחת כיסא כבודך. אפימו אין פלס סוטון טרון דונר. כמו שחתרת לתפילת מנשה. קום תשועה. Entendu la tfila de Ménaché. La tfila de Ménaché? Ménaché a prié? Mais de quoi parle-t-on? Je croyais que c'était un rachat. Bien les amis, c'est ça le problème quand on étudie beaucoup la Torah mais qu'on a oublié d'étudier le Tanakh. Ménaché, on parle de lui dans le livre des rois, certes, mais on parle de lui aussi également dans le livre de Divrei Hayamim. Divrei Hayamim, Bet, au chapitre 33, on nous raconte l'histoire de Ménaché. Ceux qui veulent, c'est mamash le début du chapitre 33 de Divrei Hayamim, Bet. Ben 12 shana Ménaché bemolcho. Ménaché est monté sur le trône, il avait 12 ans. Ça va avoir son importance, point de détail. C'est-à-dire qu'il a perdu son père quand il était jeune. Ménaché monte sur le trône à 12 ans. Vechamishim vechamesh shana malach virushalayim. Rabotai, Ménaché a régné 55 ans. Et il n'était pas tunisien pourtant. 55 ans, c'est le roi qui a le plus régné. C'est extraordinaire un règne aussi long. Après lui, il y a Bibi. C'est-à-dire que 55 ans, il faut quand même avoir des srouillottes. Il a régné plus longtemps que David, que Shlomo, qui ont régné respectivement 40 ans. C'est pas rien. Et pour vous dire la vérité, pendant 22 ans de ses 55 ans de règne, il a été pourri. Mais pendant les 33 dernières années, il a fait tchouva. C'est redevenu un tzaddik. Et pourtant, tout le monde se rappelle de lui comme étant oy vavoy. Regardez ce qui se passe. Vechamishim vechamesh shana malach birushalayim. Vayasach ra b'ine Hashem. Keto avot agoyim asher orish Hashem mipene b'ne Yisrael. Vashov ha'iven et abamot asher nitzich Hizkiyahu aviv. Vayakom mizbechot la'ba'alim vayasach sherot. וישתחו לאכול צבא השמיים ויעבוד אותם, בנה מזבחות בבית השם, אשר אמר השם בירושלים יהיה שמי לעולם, ויבן מזבחות לכל צבא השמיים בשתי חצרות בית השם, והוא העביר את בניו באש בגי בן אדום. רבותיי, il a fait de la עבודה זרה, il a créé, il s'est prosterné devant tous les idolâtries possibles, Ménaché c'est le fils de Chizkiyahou Amelech, Chizkiyahou c'était un super tzadik. Et on nous raconte même qu'il a donné ses enfants au feu. Bégué Beninom. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont profité, ceux qui habitent à Jérusalem. Il y avait, pendant l'été, il y avait le festival Oto Ochel. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Voilà, Johan connaît bien cet endroit-là. Gué Beninom. Je ne sais pas si vous avez été. Il y avait comme ça des restaurants qui avaient fait des petites voitures de restaurants, quoi. Et tu vas là-bas, sympa, petite ambiance. Hir David ont fait aussi des trucs sympathiques là-bas. Et quand tu passes un bon moment avec ta famille et tu regardes ton fils et tu es en train de manger ta boulette qui a été trop cuite, ben tu te rappelles où tu es. Tu es à Gay Beninom. C'est là où on faisait Avodah Zara chez la Molech, où on brûlait les enfants dans le feu. Et on nous dit que Ménaché, il faisait ça. Donc qu'est-ce qui peut sortir de bien? Et là, on nous dit, velo sifla, c'est vrai. Donc, Ménaché, on nous dit, va'ata Ménaché, Yehuda, ve'yoshvei Yerushalayim, la'asot ra min hagoyim, asher ishmid Hashem mipene b'nei Yisrael, va'yidaber Hashem el Ménaché ve'el amo, velo ikshivu. Et Dieu leur envoie des prophètes pour les calmer, ils n'écoutent pas. Nous, qu'est-ce qui se passe? ויהווה השם עליהם את שרי הצבא אשר למלך אשור, וילכדו את מנשה בכוחים. Et ça on oublie. Ménaché a été attaqué par les Assyriens. Et Ménaché a été envoyé en prison. Il a été capturé. Et là-bas, qu'est-ce qui se passe? וילכדו את מנשה בכוחים, ויעשרו בנחושתיים, ויליכו בבבלה. Et on l'a amené à Babylone en prison. וכעצר לו חילה את פני השם אלוהיו, ויקנה מאוד מלפני אלוהי אבותיו, ויתפלל אליו, ויתר לו וישמע תחינתו, וישיבהו לירושלים למלכותו, וידע מנשה כי השם הוא אלוהים, ואחר כך בנה חומה חיצונה לעיר דוד, ובלה בלה 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 בלה. On nous dit Ménaché, il a fait tchouva. Mais attends, deux secondes. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment Ménaché, il a fait tchouva? Après tout le mal qu'il a fait, en prison, là-bas à Babylone, il fait tchouva. Comment? Qui que quoi? Nous dit le Talmud à Yerushalmi. Le Talmud de Jérusalem, dans le traité de Sanhedrin, dans la page 10, à la Chabet, nous dit le Talmud la chose suivante. Lorsque Ménaché a été envoyé en prison, il a été torturé. Ses ennemis l'ont persécuté et l'ont torturé. Et chaque jour, on lui faisait passer une torture différente. Et pour connaître un petit peu l'archéologie babylonienne, je peux t'assurer que c'est pas cool, hein, ce genre de torture. Et tous les soirs, nous dit le Talmud, Ménaché se réfugiait dans sa cellule et il priait une autre divinité pour qu'elle lui vienne en aide. Et le Talmud nous dit, il a passé en revue toutes les divinités connues. Ah, il les a tous faites, hein, même celles qui n'existaient pas encore, même Zeus, il y est passé. Et personne ne répondait. Le lendemain, il était de nouveau persécuté. Et une fois qu'il a fini de prier toute la Avodah Zara qu'il connaissait, on nous dit, et je cite, Après sheizkira et kulam velo anu, lo azru lo klum, amar. À ce moment-là, Ménaché, je ne sais pas combien de divinités il connaissait, donc je ne sais pas combien de jours il a été persécuté. Mais à la fin du film, il dit Zachur ani, Shaya avi, Makre oti et apasuk azeb bet knesset. On a dit il est monté sur le trône à 12 ans. Donc son père est mort quand il était jeune. Et il dit je me souviens dans sa cellule qu'à l'époque, papa, Chizkiyahu Melech Yehuda, Tzadik, je me rappelle que papa, il m'emmenait à la synagogue. Je ne sais pas ce que ça veut dire une synagogue à l'époque du premier Beth Amikdash. Peut-être qu'il l'emmenait au Beth Amikdash, mamash. Il dit, je me souviens que papa, il m'emmenait à la synagogue et il me lisait ce verset. Batsar lecha, umtsaucha kol advarim ha'ele b'acharit ha'yamim. Lorsque tu seras dans un désarroi le plus total. Veshavta ad Hashem Elohecha veshamata bekolo. Et tu reviendras vers Akadosh Baruch Hu et tu entendras sa voix. Ki el rachum Hashem Elohecha lo yarpecha velo yashritecha. Car Dieu il a envie de te pardonner et il t'abandonnera pas. Velo yishkach et brit avotecha asher nishba lahem. Il n'oubliera pas l'alliance qu'il a faite avec ses ancêtres et avec tes ancêtres. Nous dit Ménaché au fin fond de sa cellule, je me suis rappelé de ça. Are ani kore oto. Ani Arshav, Marshav, je me souviens et je l'appelle. Veuone. Et il le ramène à Jérusalem et il remonte sur le trône pendant 33 ans. Rotaï, on a dit qu'il y a des gens, leur dialogue à eux, c'est la Torah. On a dit qu'il y a des gens, leur truc à eux, c'est leur truc à eux. Ils ont un truc. Mais il y a des gens qui ont même plus le truc. Mais ils ont le Zikaron. Zachur Ani. Ils se rappellent de quelque chose. Ils le font pas. Mais on connaît tous des gens qui ont été éveillés par un souvenir. Tout d'un coup, ils ont entendu quelque chose, ça leur a rappelé. Quelque chose de tellement enfoui en eux. Et ça les a réveillés. Le Rav Cherki m'a raconté qu'il connaissait un homme, un ami à lui, qui lui a dit, ils étaient jeunes. Il lui a dit, ça y est, je lâche tout. Je vais tout lâcher. Il dit, t'es sûr? Ouais, je vais tout lâcher. Et il a tout lâché. Et le Rav Cherki raconte qu'aujourd'hui, cet homme qui a tout lâché, il est Rav d'Israël. Et comment il est revenu? Il est revenu parce que ses parents sont morts très jeunes aussi, machin, et ça lui a fait un choc, machin, il a tout lâché. Et un jour, il a été mangé chez sa grand-mère, qui elle était encore en vie. Et la grand-mère lui a fait un poisson avec une recette que, en fait, il ne se rappelait plus. Mais c'était le poisson que sa maman faisait, qu'elle-même avait appris de sa mère, de la grand-mère. Et donc elle a dit, j'ai mangé le poisson. Et tout d'un coup, Je me suis rappelé. Je me suis rappelé de qui j'étais. J'avais abandonné mon poisson depuis tellement longtemps. Alors, je sais pas si c'était un poisson à la marocaine ou c'était un gefilte fish, mais c'est pas grave. C'est l'homme échané. Il y a des gens qui ont le zikaron. Et ça, ça les éveille à la teshuva. On a dit, il y a des gens qui, même ça, ils ont pas. Ils sont complètement paumés. Et ces gens qui sont complètement paumés, comment on fait pour les ramener? Comment on fait pour les ramener? Ils ont des chélotes qu'on n'a même pas de réponse à leur donner. Comment on fait? Comment on fait? Pour ces gens-là qui ont des questions qui viennent d'un endroit où il n'y a pas de réponse, qui savent même pas qu'ils ont des questions tellement ils sont loin. Il n'y a plus de dialogue. Il y a Ahava.
Oui, on s'excuse.
Il y a l'amour, tout simple, délivré de toutes les barrières.
La fin du film pour finir en beauté. Rav Fison, on t'entend pas très bien.
On m'entend pas ?
Le problème de connexion, c'est toi. Non. Alors, si tu peux
Attends-moi.
Reprendre la dernière minute. Et
là, on m'entend ? Là, on m'entend ?
Un peu mieux, ouais. Qu'on okay. ait la punchline, la fin, parce qu'on t'entend pas très bien. La bande de réseau est pas très, très forte.
Alors, je disais. On a terminé l'histoire du mec qui se souvient. Je disais, il y a des gens qui même ça, ils ont pas. Que même ça, ils ont pas. Ils sont tellement paumés qu'ils se souviennent même pas qu'il faut se souvenir de quelque chose. Eh bien, ces gens-là, pour les ramener à la teshuva, ça sert à rien de dialoguer. Il faut tout simplement ouvrir son cœur et les aimer sans aucune barrière. Les rattacher par un chibouk. Alors, on est en corona, donc on n'a pas le droit de parler de chiboukim, mais bon, quand même. Qui enlève toutes les barrières. Rabotai, ces cinq dimensions, eh bien, ce sont les cinq moments dans l'année juive où on va pouvoir se rattacher à Dieu. Et je termine par là. On a commencé par le prophète. Et on a dit, lui, sa tchouva, c'est dans la rencontre avec Dieu. C'est donc dans des moments très particuliers que le prophète se rattache à Dieu. C'est pendant les Shalosh Regalim. Pendant les trois fêtes de pèlerinage. Pendant Pessah, Shavuot et Sukkot. Pourquoi? Parce que là-bas, il est dit qu'on voit Pene Hashem. Yirae kol zechurecha et Pene Adon Hashem. Yona Navi, il recevait la névoie lorsqu'il allait au Bet Amigdash à Simchat Bet HaShoeva. Là-bas, on rencontre Akadosh Baruch Hu. Les Nevi'im, leur fête, c'est Pessah, Shavuot et Sukkot. Mais les autres, ils n'arrivent pas à se connecter à Dieu à ce moment-là. Ils ont besoin de quelque chose d'encore plus profond. Et donc pour les trois personnes qu'on a évoquées, le religieux, le mec qui a un truc et le mec qui a le souvenir, il faut aller plus loin que le mivgash panim el panim. Il faut aller plus loin que la rencontre de visage à visage. Il faut aller lifnai velifnim. Il faut aller encore plus profond que cela. Eh bien, ce sont les trois fêtes que sont Rosh Hashanah, Yom Kippour et Shmini Atzeret. Ce sont des fêtes où on rentre plus loin que la Panim, on rentre dans le Kodesh HaKodeshim. Alors, Shmini Atzeret, c'est Simchat Torah. Nous dira le Talmud, à propos de la Torah, Yekara hi mipeninim mikohen gadol shenichnas lifnai velifnim. La Torah, elle est comme le Saint des Saints. Donc à Simchat Torah, le religieux se sent tellement bien. Et c'est sa tchouva à lui. Il attache la Torah, il se rattache à elle. Et c'est ça sa tchouva. À Yom Kippour, c'est le monsieur tout le monde qui se rattache. Vous vous rappelez, on a parlé de son chout, de son fil qui le rattache. Ça nous rappelle le fameux chout qu'il y avait dans le Bet Amigdash qui était rouge et qui devenait blanc. Et tout Am Israël venait voir ce chout qui devenait blanc. Et c'est à ce moment-là, quand le Kohen Gadol rentre dans le Kodesh HaKodashim, que le monsieur tout le monde y trouve sa place. Et l'homme qui a le souvenir, il a Rosh Hashanah. On nous dira à propos du shofar dans le Talmud qu'il est les Zikaron, et donc il rentre dans le Kodesh HaKodashim également pratiquement. Mais il nous reste, et on termine par, non, véritablement par là, cet homme, on a dit, qui était tellement loin, que pour le ramener, tu as besoin de ce chibouk qui n'a plus de barrière. Eh bien, s'il n'arrive pas à rencontrer Dieu, mais à Panim, et qu'il n'arrive pas non plus à le rencontrer, mais à Lifnaï Velifnim, alors il pourra le rencontrer, mais à Achor, mais à l'autre côté, par une voie qui n'est pas une voie, par la porte de derrière, par l'entrée des artistes. Pour cet homme-là, Pessah, ça ne lui parle pas. Shavuot, Sukkot, ça ne lui parle pas. Même Rosh Hashanah, Yom HaKippurim, et Shmini Atzeret. Mais cet homme-là, tu vas l'inviter au Mishté de Purim. Et il va venir au Mishté, et lorsque vous aurez fait tomber les barrières avec un petit verre en plus, alors la connexion pourra se faire. Et à ce moment-là, on n'oubliera pas que Yom HaKippurim, c'est en vérité le jour qui ressemble à Purim. Kepurim, comme Purim. Parce que c'est le moment où je me rappelle que j'ai encore quelqu'un à aller chercher, le fameux cinquième enfant de la Haggadah. Et lorsque je l'aurai ramené, alors j'aurai réuni toutes ces dimensions du peuple d'Israël. Et j'ai pas le temps de l'expliquer, mais ces cinq dimensions sont les dimensions de la Neshama, Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya ve'Yechida. Mais ça, ce sera peut-être pour un autre cours, une prochaine fois, Sheyeh Hatima Tova Let Kulam, et qu'on se retrouve pour danser à Sukkot au Bet HaMikdash. Bimera Beyamenu. Amen, Keni Ratzon.
Amen, tout d'abord avec ta fille.